Comment rendre un sol vivant? Comment rendre un sol si vivant qu'il ne soit plus nécessaire de le travailler, de le labourer, de le retourner? Pour avoir un sol vivant, il faut nourrir ce sol avec des déchets végétaux. On peut classer les déchets végétaux en trois grandes catégories. D'une part, les déchets verts, comme les feuilles fraîches, l'herbe de tonte, les mauvaises herbes coupées. D'autre part, les déchets jaunes, comme la paille ou les tiges de maïs. Enfin, les déchets marrons, que sont les branches des arbustes et des arbres. Tous les déchets végétaux ne contiennent pas la même quantité d'énergie. On le voit bien si on les brûle. Lorsque l'on brûle du bois, cela dégage beaucoup plus de chaleur que de brûler de la paille, et encore plus comparé à des herbes. Donc, les déchets végétaux marrons ont plus d'énergie que les déchets jaunes, qui ont même plus d'énergie que les déchets verts. De l'énergie, il va falloir en apporter au sol pour que la population des organismes vivants dans le sol se développe. Donc, si l'on veut développer la vie dans un sol, il faut lui apporter des déchets végétaux marrons ou jaunes en quantité suffisante. Les questions qui se posent alors sont premièrement, quelle quantité de déchets végétaux apporter? Et deuxièmement, comment intégrer ces déchets végétaux au sol? La quantité à apporter au sol va dépendre de l'état du sol, déjà plus ou moins vivant, plus ou moins compacté, avec déjà une bonne quantité de vers de terre ou au contraire très peu de vers de terre. À titre d'exemple, voici ce que recommande François Mullet, du mouvement Pour une agriculture du vivant, qui a développé en France des méthodes pour faire du maraîchage sur sol vivant. François Mullet indique que pour réellement améliorer un sol, il faut étaler sur ce sol une couche de broyat de bois d'une épaisseur de 5 cm et mélanger, intégrer ce broyat de bois dans les 10 premiers centimètres de terre. Le broyat de bois va se décomposer sous l'action de la chaleur et de l'humidité, favorisant ainsi le développement de champignons, de bactéries et des petits animaux vivant dans le sol. On peut utiliser de la paille à la place du broyat de bois, mais alors il faut en mettre une couche de 25 à 50 cm, ce qui est vraiment beaucoup. François Mullet recommande de mélanger le broyat de bois à la terre lorsque l'on fait un apport massif de broyat et qu'il y a peu de vers de terre dans le sol. En revanche, s'il y a déjà une bonne quantité de vers de terre, on peut laisser les 5 cm de broyat en surface et les vers de terre se chargeront d'intégrer le broyat décomposé à la terre. Pour bien se décomposer, le broyat de bois a besoin de chaleur et d'humidité. Donc il faut tenir compte du climat pour savoir à quel moment faire un apport. En zone tropicale, on fera cet apport au début d'une saison des pluies. Si le sol est vraiment dégradé, il sera peut-être nécessaire de refaire des apports importants de broyat de bois les années suivantes. Mais même lorsque le sol sera devenu bien vivant, il faudra de toute façon continuer à apporter du broyat de bois tous les ans pour bien nourrir les organismes vivant dans le sol et en particulier les vers de terre. François Mullet évoque encore comme ordre de grandeur un apport chaque année de 1 à 2 cm de broyat de bois ou encore 5 à 10 cm de déchets végétaux jaunes comme la paille ou les tiges de maïs. L'apport massif de broyat de bois va provoquer, à plus ou moins long terme, l'explosion de la population des vers de terre. En France, on a pu observer que les vers de terre devenaient chaque année jusqu'à 10 fois plus nombreux si l'apport de nourriture était suffisant. Donc, s'il y a par exemple 10 kg de vers de terre dans un champ de 1 hectare et qu'on leur apporte suffisamment de nourriture, il peut y en avoir 10 fois plus, soit 100 kg au bout d'un an, et encore 10 fois plus, soit 1000 kg, c'est-à-dire une tonne, au bout de 2 ans. En maraîchage sur sol vivant, il est courant d'avoir 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Mais pourquoi ces vers de terre sont-ils si importants, au point que l'on dise que la première tâche d'un paysan devrait être de cultiver des vers de terre? Les vers de terre sont des alliés formidables car ils vont à la fois structurer le sol et y apporter de la fertilité. Alors, comment font-ils ? Les vers de terre mangent des débris végétaux déjà décomposés et ils les absorbent avec de la terre pour mieux les digérer. Ils broient et ils mélangent ces débris végétaux et la terre dans leur intestin pour en extraire les microbes. Car ce sont les microbes qui les intéressent. Ce sont les microbes dont ils se nourrissent. Après digestion, ils rejettent donc dans leur crotte, crotte que l'on appelle des turicules, un mélange de débris végétaux et de terre. Des microbes vont se développer dans ces turicules et au bout de quelques jours, les vers de terre vont manger leurs turicules pour en extraire les microbes et ils feront de nouvelles crottes, de nouveaux turicules où les débris végétaux et la terre sont encore mieux mélangés. De plus, comme toutes les crottes des vers de terre sont collantes. Donc, les vers de terre contribuent à transformer la terre en un sol qui se tient, un sol qui ne se désagrège pas sous l'effet du vent ou de la pluie. Pour donner un ordre de grandeur, un ver de terre mange environ son poids par jour, si les conditions d'humidité sont satisfaisantes. Supposons que l'on ait 2 tonnes de vers de terre dans un champ de 1 hectare. Au bout d'un an, les vers de terre auront remanié 2 tonnes de terre chaque jour, pendant 365 jours, soit 730 tonnes de sol. Et au bout de 5 ans, ils en auront remanié 5 fois plus, soit 3650 tonnes de sol, ce qui correspond à peu près à l'ensemble du champ sur une profondeur de 25 à 30 cm. Donc, en ingérant ainsi toute la terre du champ, les vers de terre mélangent et agglomèrent les débris végétaux de façon intime avec la terre. Mais ils font mieux que cela, car dans leur déplacement, ils font des trous. Des trous qui permettent à l'air de pénétrer, des trous qui permettent à l'eau de s'infiltrer, des trous qui permettent aux racines de plantes de se développer. Et sur la paroi de ces trous, les vers de terre déposent leur mucus qui est collant, comme la bave d'un escargot ou d'une limace. En effet, les vers de terre respirent par la peau. Il est vital pour eux que leur peau reste toujours humide pour pouvoir respirer. Le vers de terre fabrique donc ce mucus à la surface de sa peau, un mucus qui sèche beaucoup moins vite que l'eau et qui lui permet à la fois de respirer et de glisser sur le sol. Le mucus qui tapissent les trous laissés par les vers de terre, structure le sol. S'il pleut, l'eau glissera à l'intérieur du trou sans que les parois du trou ne s'affaissent. Mais en plus, le mucus du vers de terre contient des éléments nutritifs pour les plantes. En fait, les vers de terre relâchent des éléments nutritifs pour les plantes non seulement dans leur mucus, mais aussi dans leur urine. Ainsi, le sol remué par les vers de terre devient de plus en plus fertile. Attention toutefois, car dans les premiers mois de la transition, il y aura plutôt une baisse de fertilité. En effet, l'apport massif de déchets végétaux dans un sol qui n'est pas encore très vivant va faire se multiplier les organismes vivants du sol. Leur population va augmenter fortement, et ce faisant, ces organismes vont capter les ressources disponibles dans le sol et vont concurrencer les cultures. Deux options sont alors possibles face à cette baisse de fertilité au début de la transition. Soit on ne le cultive pas pendant quelques mois, on fait un apport massif de broyat que l'on mélange à la terre et l'on couvre par exemple avec une bâche, soit l'on souhaite cultiver sans attendre. On fait alors un apport massif de broyat que l'on mélange à la terre et on apporte aussi des déchets verts ou du compost ou du fumier qui vont libérer rapidement de la fertilité. Ces apports complémentaires vont compenser les ressources consommées par les organismes vivants du sol qui se développent beaucoup. On choisira également des cultures adaptées à ce sol en construction. Par exemple, des courges ou des tomates qui ont des racines puissantes. Une fois que le sol est devenu bien vivant, pour qu'il reste vivant, il y a 3 principes à respecter. Toujours le couvrir, bien le nourrir en permanence et ne jamais le travailler. Principe numéro 1, toujours le couvrir. Cela signifie que le sol ne doit jamais être à nu, toujours couvert par des plantes vivantes ou par des déchets végétaux. Principe numéro 2, bien nourrir le sol en permanence. Pour nourrir le sol, on va donc récolter uniquement la partie de la plante dont on a besoin et on remet sur le champ tout le reste. Les tiges de maïs, les épluchures de manioc, les coques d'arachide, vraiment tout le reste. Pour nourrir le sol, on va faire des apports réguliers de broyat de bois. Ce bois, on peut le trouver en forêt, mais le plus simple est de l'avoir dans le champ ou autour du champ en plantant des arbres et des arbustes que l'on taillera régulièrement. D'ailleurs, lorsque l'on taille un arbre, certaines de ses racines meurent et ses racines mortes sont aussi de la nourriture pour le sol. Enfin, pour nourrir le sol, on pourra entre deux périodes de culture semer des plantes qui serviront à couvrir le sol, des plantes que l'on détruira ensuite, que l'on écrasera et qui nourriront le sol en se décomposant. Même en saison sèche, les plantes peuvent pousser car elles captent l'eau présente dans l'air. Principe numéro 3, ne pas travailler le sol pour ne pas détruire la maison des vers de terre et des autres organismes vivants dans le sol. Pour finir, un conseil pour réussir cette transition vers des sols vivants. Chaque contexte est particulier, qui dépend du climat, de l'environnement et de l'historique du champ, de la composition et de la texture du sol. Aussi, chaque paysan, chaque paysanne doit adapter les principes de nourrir le sol, de couvrir le sol et de ne pas le travailler à sa situation propre. On peut faire d'abord un essai sur un bout de son terrain. Le mieux est d'ailleurs de faire des essais à plusieurs, de constituer un groupe où chaque membre du groupe va expérimenter sur une partie de son champ. Puis le groupe échange sur les pratiques pour voir ce qui a le mieux fonctionné.